En ces jours où nous allons célébrer les mystères de notre passion, de notre salut, les mystères de la passion du Seigneur, nos esprits, comme les esprits de bien de nos contemporains, sont encore marqués par bien des images, par le souvenir de bien des événements. Je pense à deux événements qui sont présents à chacun de nos esprits. Le plus récent, c'est bien sûr l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous avons tous été bouleversés en voyant les images de ce joyau de l'architecture chrétienne en feu. Il est magnifique de voir combien sont touchés par ces mêmes images, alors qu'ils peuvent être loin de la foi, mais néanmoins, ils manifestent et nous prêtent, comme certainement bien d'entre vous, des manifestations, mais nous voyons quantité de personnes qui sont bouleversées par cela. Sur la campagne, l'hôpital était infirmière, nous le signifiait. Et c'est source d'espérance pour nous, car cela dit l'attente qu'il y a dans le cœur de bien des personnes encore loin de l'Église, encore loin du Christ apparemment, et qui manifestent leur attachement à l'Église. Et puis en même temps, cela représente un paradoxe, car nous savons combien nos sociétés se sont éloignées de l'Évangile, combien nos sociétés ont mis de côté la parole de Dieu. Ce n'est plus cette parole qui illumine et bien notre agir, le vote de nos lois. Il y a ce paradoxe, cette attente et puis cet éloignement en même temps. L'autre événement, c'est bien sûr le scandale des abus sexuels au sein de l'Église qui représente véritablement un drame dont nous avons déjà beaucoup parlé et dont il nous faut continuer de parler certainement. Notre évêque l'a fait hier soir de la messe chrismale, car réellement l'Église est appelée à être signe de la présence du ressuscité, de la présence de celui qui est l'amour, et à travers bien de ses membres, en tout cas un nombre suffisamment important, apporter un contre-témoignage, et c'est bien sûr scandaleux, inadmissible, nous comprenons de plus en plus la gravité de tels actes. Et nous entendons donc l'appel que le Seigneur nous adresse à nous convertir. Et vous savez que notre pape émérite, le pape émérite, le pape Benoît XVI, avec la profession du pape François, a écrit un texte qui révèle une analyse extrêmement profonde des causes de ces scandales au cœur de l'Église à partir des années 60 et tout particulier jusque dans les années 80. Et je vous invite à lire ce texte qui est extrêmement éclairant quant aux causes les plus profondes. Certes, il y en a certainement d'autres que le pape François en a évoqué de son côté, mais celles-ci ne sont pas moins extrêmement importantes, si ce n'est les plus importantes. Et voilà ce que le pape Benoît XVI, le pape émérite, il n'a pas la prétention de concurrencer, si je peux m'exprimer ainsi, le pape François, c'est bien évident. Il écrit ceci au terme de son analyse, vers la fin de celle-ci. C'est pourquoi, quand nous réfléchissons aux mesures qui sont à entreprendre pour solutionner donc cette situation dramatique, scandaleuse, il apparaît clairement que ce n'est pas une nouvelle Église inventée par nos soins dont nous avons besoin, mais bien plus d'un renouvellement de la foi en la réalité de Jésus-Christ qui nous est offerte dans le Saint-Sacrement. Ce Saint-Sacrement que nous célébrons ce soir en tant qu'il a été institué par le Christ la veille de sa passion. Et cela évoque bien sûr le pape François, le pape Benoît, pardon, émérite toujours, corrigez-moi, le pape émérite Benoît XVI n'a pas du tout. Il a été un des artisans du Concile Vatican II comme expert en théologie. Il connaît le Concile, dont il a eu à cœur de le promouvoir tout au long de son pontificat, puis d'abord avec Jean-Paul II, quand il était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Il explicite une phrase du Concile qui dit que la source et le sommet de toute la vie de l'Église, c'est l'Eucharistie. La source et le sommet de la vie de toute l'Église, de chacune de nos vies chrétiennes, ancrer ces paroles en nos cœurs, en découvrir la signification pour qu'elles deviennent réalité et vie en chacune de nos vies, pour que nous soyons véritablement témoins du Christ, unis les uns aux autres en son nom. Nous allons célébrer demain et dans les deux jours qui suivent l'événement, je le disais au début de cette célébration, qui est le cœur de notre foi chrétienne, le fondement de notre foi chrétienne. Le Christ est mort pour vos péchés, dit saint Paul, conformément aux Écritures, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et par sa mort et par sa résurrection, il vient véritablement nous sauver, en ceci qu'il vient nous rejoindre en toutes nos ténèbres, en notre péché, en toutes nos morts spirituelles, corporelles, pour nous communiquer la miséricorde du Père, pour nous ressusciter avec lui, pour nous donner par le don de l'Esprit de pouvoir vivre une vie nouvelle. Pour que nous puissions vivre de ce mystère, pour que ce mystère puisse être la source de vie de chacun de nous, et qu'il a institué l'Eucharistie. Et à travers elle, il nous donne véritablement son corps. Son corps qu'il a livré sur la croix, son corps qui désormais est ressuscité. Il nous donne véritablement son sang qu'il a versé pour nous sur la croix, signe du don total qu'il a fait de sa vie, pour le salut du monde, pour le salut de chacun d'entre nous. Il a voulu que ainsi, jour après jour, l'Eucharistie est célébrée chaque jour, et bien l'Église puisse être sanctifiée par le don qu'il lui fait de lui-même, lui qui dans toute la Bible nous est présenté comme l'époux. Il vient sanctifier son épouse. Il vient lui apporter la vie. Il vient la renouveler sans cesse par le don de la miséricorde, par le don de son Esprit Saint. Il vient lui donner le vivre déjà de sa résurrection. À chaque fois que l'Eucharistie est célébré, c'est véritablement le mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui sont célébrés sur l'autel. Le mystère de la croix est actualisé sacramentellement, de telle manière que nous puissions en recevoir tous les fruits et que nous puissions y être associés, que nous puissions vivre d'un seul cœur avec le Christ. Comme il nous faut apprendre à vivre en vérité de l'Eucharistie, bien sûr, en y participant déjà le plus régulièrement et même fréquemment possible, car sans l'Eucharistie, eh bien notre vie ne peut être vivifiée, ne peut être nourrie. Mais participer à l'Eucharistie, déjà le dimanche, et puis si nous en avons la possibilité, plus fréquemment en semaine, le désir de l'Église, parce que c'est possible, ce n'est pas possible pour tous les fidèles, c'est que chaque fidèle puisse participer chaque jour à l'Eucharistie, puisse se nourrir chaque jour de ce pain vivant qui nous est donné par le Seigneur et qui est lui-même. Si la participation à l'Eucharistie est bien sûr fondamentale, eh bien il y a d'autres aspects qui sont néanmoins à souligner également. Lors de ce grand discours que Jésus prononce après l'institution de l'Eucharistie, que saint Jean nous relate dans son évangile, après le lavement des pieds, eh bien nous voyons l'apôtre, le disciple bien-aimé, reposer sa tête sur le cœur du Christ. Dans son Eucharistie, le Christ se donne vraiment à nous en nourriture. Et c'est pour nous introduire dans son intimité. Comme il nous faut apprendre à entrer de plus en plus profondément dans l'intimité avec le Christ, à vivre de cette parole qu'il offre à ses apôtres et également à toute l'Église, à chacun d'entre nous, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et c'est dans la prière qui est ce cœur à cœur avec le Seigneur que justement nous entrons de plus en plus dans cette intimité amicale qui nous offre de pouvoir vivre avec lui. Et c'est ainsi que nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie, à entrer véritablement dans le mystère. Comme c'est ainsi, lorsque nous vivons dans cette intimité avec le Seigneur dans la prière, que nous le laissons véritablement nous communiquer tous les fruits de la communion, tous les fruits de sa présence en nous, sans quoi nous risquons de communier d'une manière qui, la limite serait machinale, et en tout cas qu'il ne porterait pas tous les fruits qu'elle porte. Le Seigneur veut véritablement nous unir à lui comme l'époux veut s'unir à son épouse. Et cela concerne toute l'Église, bien sûr, mais au sein de l'Église, chacun d'entre nous. Comme il est bon de voir Saint Jean-Paul II et Sainte Mère Thérésa. Pensons au temps que l'un et l'autre passaient devant le tabernacle, passaient en prière chaque jour de plusieurs heures, à entrer de plus en plus dans l'intimité avec le Seigneur. Et c'est la source du renouvellement de nos cœurs, de nos vies, de la vie de l'Église et de la vie du monde. Vivre en vérité de l'Eucharistie suppose de mettre en pratique cette parole de Saint Augustin que le pape Benoît XVI avait reprise lorsqu'il était au pontificat, que nul ne mange de cette chair s'il ne l'a d'abord adorée, s'il n'a d'abord reconnu en elle son Seigneur, la présence réelle de son Dieu, qui dans son amour infini, dans sa miséricorde infinie, va jusqu'à se donner à nous en nom dur, pour que, comme Jésus vous le dit dans le discours après la scène, celui qui mange ma chair, c'est au chapitre 6 de Saint Jean, etc. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Celui qui me mange vivra par moi. Dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, nous le savons chaque année, nous en percevons, il n'y a pas de récit de l'institution de l'Eucharistie, mais il y a la scène du lavement des pieds. Et cette scène du lavement des pieds, eh bien, représente l'attitude la plus profonde du cœur du Christ. Toute sa vie, il s'est fait le serviteur. Et il a été d'une manière ultime, non pas dans ce geste du lavement des pieds, qui annonce un autre geste, qui est celui du don qu'il doit faire de sa vie sur la croix. Là, il est vraiment le serviteur. Ce serviteur que le prophète Isaïe annonçait, et dont nous lirons justement l'annonce le jour du Vendredi Saint, lors de l'office de la Passion. Ce magnifique texte qui préfigure déjà toute la passion du Christ. Il s'est fait serviteur, il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs, de notre péché, pour nous en libérer, pour nous sauver, pour nous communiquer sa vie de Fils, pour faire de nous véritablement des enfants d'une mère. Jésus lave les pieds de ses apôtres et il nous manifeste la plénitude de l'amour qu'il a pour chacun, et cela sans exception, sans aucune. Vivre en vérité de l'Eucharistie, participer véritablement à l'Eucharistie, signifie bien sûr laisser le Christ imprimer dans nos cœurs les attitudes profondes de son cœur à lui, attitude du serviteur. Et nous ne pouvons pas vivre en vérité de l'Eucharistie si nous-mêmes nous ne devenons pas en vérité serviteurs dans l'amour les uns des autres. Et l'Église ne cesse de nous le redire, particulièrement des plus pauvres, des plus petits. Mais d'abord, eh bien de ceux que le Seigneur met sur notre route, au sein de nos familles, au sein de nos communautés, de nos paroisses, là où nous travaillons, que nous sachions véritablement prendre la dernière place, comme Jésus l'a prise lui-même. Non, dit Simon-Pierre, tu ne laveras pas les pieds, tu es le maître, tu es le Seigneur, c'est le geste de l'esclave, ne fais pas ça. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Simon le maître, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Ce faisant, heureux êtes-vous. Vous découvrez la vraie vie, la vraie joie, celle d'aimer, celle de vous donner, celle de vous mettre au service, dans l'amour de chacun de vos frères. Et c'est l'Eucharistie, ou plus précisément, c'est Jésus présent dans l'Eucharistie, dans la mesure où nous accueillons cette présence et que nous en vivons, qui nous donne la possibilité de vivre ainsi. Nous avons entendu comment tient de l'Évangile le grand commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment vivre cette parole quand on contemple la manière dont le Christ nous a aimés, si nous ne nous tournons pas vers lui, si nous ne le mangeons pas, si nous ne l'adorons pas, si nous ne le laissons pas consumer nos cœurs comme les saints ont laissé consumer le leur par la présence du Christ dans son Eucharistie. Oui, tout nous est donné. Et face aux attentes de notre monde, ces attentes qui ont été manifestées d'une manière extraordinaire à travers l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, face aux scandales présents dans l'Église, eh bien, la réponse, nous dit le pape, le message, c'est l'Église qui nous le dit à travers lui, eh bien, c'est de vivre toujours plus profondément du don de l'Eucharistie. Laissez le Christ nous unir à lui, nous transformer en lui, pour que ce soit nous qui vivions, comme le dit Saint Paul, et que ce soit lui qui vive en nous. Sinon, nos efforts ne seraient qu'humains et nous n'aurions de son corps livré, de son sang versé, lui qui est ressuscité, pour que nous ayons part avec lui, pour que véritablement au cœur de ce monde, nous vivions en ressuscité. Demandons à la Vierge Marie, à celle à laquelle nous nous tournerons demain, lorsque nous serons au pied de la croix avec Jésus, nous entendrons alors les paroles que le Christ nous s'adressera. Voici ta mère. Disciples bien-aimés, dont chacun d'entre nous, voici ton Fils, nous demandons la Vierge Marie, qu'elle nous apprenne véritablement à vivre du don de Dieu, du mystère qu'il nous fait, de sa présence au cœur de son Église, pour sans cesse la sanctifier, la purifier, la renouveler.